7h12 sur France Culture, c'est l'heure d'Histoire de foot et ce matin, c'est l'occasion d'évoquer les joueurs sélectionnés et entraînés par Leonid Sloutski.
Et cette équipe, c'est bien sûr la Russie qui joue aujourd'hui son troisième et dernier match dans le groupe B de l'Euro 2016. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Olivier.
Depuis le début de la compétition, les hooligans russes volent la vedette aux joueurs qui rencontrent à Toulouse du Pays de Galles ce soir. Finalement, que vaut cette équipe footballistiquement parlant, Ludovic ?
Pas grand chose. La Fédération de Russie n'est pas une grande puissance du foot. Pour ma démonstration, a-t-on déjà vu Vladimir Poutine avec un ballon rond? Alors que le président russe, dans ses 1000 opérations de communication, a tout fait, surtout du judo, mais aussi de la boxe, de la gymnastique, de la Formule 1, du biathlon, de la natation, de l'équitation, essentiellement des sports individuels où l'exploit personnel est mis en avant. Mais soyez attentifs, pas de sport collectif pour Poutine, hormis l'un de ses préférés, le hockey sur glace, dont on va dire que cette discipline est presque une évidence pour les Russes. Le football est un sport collectif et il n'est pas dans l'iconographie, dans la propagande poutinienne qui consiste à faire du sport un symbole de la puissance russe. Une stratégie de communication qui bute d'ailleurs ces temps-ci sur les nombreuses révélations de dopage, comme ce rapport explosif de l'Agence mondiale antidopage qui fait que les athlètes russes ne seront pas cet été aux Jeux olympiques de Rio. Mais ces mauvaises pratiques ne concernent que des sports individuels. Cyniquement, on pourrait dire que se doper ne permet pas grand-chose en football. En revanche, pour tenter de briller en foot et de rivaliser avec l'Ouest, il reste l'argent. C'est en Russie qu'on distribue quelques-uns des meilleurs salaires au monde. Les oligarques du Daghestan, de Tchétchénie, de Kazan, Moscou ou Saint-Pétersbourg alignent les gazos et les pétrodollars, rachètent en Europe Monaco ou Chelsea. Il y a 6 ans, la FIFA, mais dans quelles conditions, déclarait outre le Qatar en 2022, la Russie, pays hôte du prochain mondial de foot en 2018, avec l'entreprise Gazprom en étendard, une stratégie de visibilité à l'international. Gazprom s'affiche depuis peu aussi comme le généreux sponsor de la très suivie Ligue des Champions. Et pour faire comme les clubs européens et disputer mieux encore cette Ligue des Champions, les Russes ont eu l'idée de changer leur calendrier. Fini d'être en décalé, la saison commence en août pour se terminer à la fin du printemps. Mais la météo, elle, ne se change pas. Hiver oblige, tout s'arrête pendant 3 mois, ce qui brise la dynamique sportive des clubs russes face aux élites européennes. La Russie fait tout ce qu'elle peut pour tenter de devenir une nation du football, de redevenir une nation du football, car qui a gagné le premier Euro, les premiers championnats d'Europe en 1960, qui a accédé 3 autres fois en finale en 64, 72 et 88, si ce n'est l'URSS, mais ça c'était avant, il y avait les ex-républiques soviétiques et notamment l'Ukraine. L'URSS était une vraie et très grande nation du football. Poutine découvre en foot le proverbe « on ne peut pas être et avoir été ».
Merci beaucoup Ludovic Piétenu pour cette histoire de foot que l'on peut bien sûr réécouter sur notre site franceculture.fr.